Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire et il est aussi celui qui écrit l'histoire.
13 novembre, chaque témoin compte.
On pouvait imaginer la scène, disons, dans notre couloir. On pouvait imaginer à peu près ce que c'était la scène de l'extérieur parce que j'avais éteint la télé. J'avais pas envie d'être dans l'histoire de la télé, j'avais envie d'être là pour bien comprendre ce qui se passe.
Nous sommes dans un des immeubles proches du Bataclan. Les habitants guettent les sons qui leur parviennent, cherchant à les interpréter. À un souffle, les spectateurs, captifs dans la salle. Les policiers aussi, certains savent comment se donne un assaut, les autres se tiennent alentour, dans la même ignorance de ce qui se passe à l'intérieur que les riverains. L'œil de chacun ne voit que ce qui se tient dans son angle de vision. L'oreille tente de réaliser les scènes qu'elle devine. Dans les reconstitutions de ce moment, à cet endroit précis, chaque témoignage compte. Il importe de le saisir à l'instant où il se cristallise, quand il garde la fragilité de l'émotion, et qu'en même temps il se formalise en dessinant plusieurs angles. Existe au CNRS un laboratoire de recherche et d'intervention qui s'appelle l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Il a collecté autrefois d'innombrables témoignages sur la Deuxième Guerre en France. Il en a ensuite recueilli beaucoup autour des génocides et des violences extrêmes. Au lendemain du 13 novembre, il a aussitôt pensé que son rôle était de le documenter. Son projet combine l'image, le son, le net, la dimension immédiate et l'épaisseur historique, puisque vont y intervenir aussi des chercheurs de différentes disciplines. France Inter et France Culture se sont aussitôt associés à cette initiative.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Antoine Lefébure, qui en est un des artisans, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien, vous êtes de formation historienne, l'histoire de la radio. Vous avez aussi été un agitateur d'idées perpétuellement dans votre vie. Et autour de ce projet que vous nous exposerez dans un instant, vous avez rencontré très vite l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est spécialisé dans le très contemporain. Mais avant, gardons un peu de suspension, Antoine Lefébure, qu'on présente ce projet Chaque témoin compte. Il faudrait qu'on se souvienne de ce qui s'est fait, par exemple, après le 11 septembre aux États-Unis.
Oui, après le 11 septembre, il y a eu très rapidement des campagnes de témoignages, des témoignages écrits, mais aussi des témoignages vidéo. Il y a eu un projet de musée, il y a eu plusieurs projets de films, et il y a eu un besoin, même pour l'Amérique, de faire un projet d'histoire orale de l'Amérique qui s'est monté avec des applications Internet et des applications de téléphonie mobile.
Pareillement, à Paris, au lendemain du 13 novembre, autour de la statue de la République, vous savez, ce monument falaise que bat la houle des événements, les archives de Paris ont imaginé de collecter tous les ex-voto, tous les objets en français, en latin, fluctuat nec mergitur, qui étaient déposés au pied de la statue, avec le souci de préserver ce qui était extrêmement fragile.
Nous sentons qu'il y a un besoin, une volonté de conserver la totalité des hommages, des signes de commémoration qui auront été rendus sur les lieux des attentats. C'est donc fait de manière beaucoup plus systématique que nous ne l'avions fait après les attentats de Charlie Hebdo.
On retire tout ce qui est fleurs fanées et fleurs abîmées. Toutes les fleurs qui peuvent être réutilisées et réinstallées sont réinstallées par les services de la propreté. Et nous, après, on retire tout ce qui est les mots qui sont en bon état pour les garder et les conserver aux archives de Paris.
C'est sûr que c'est difficile, il faut se mettre une barrière, il faut pas trop regarder, pas trop lire, parce que sinon on n'arrivera pas à travailler, tout simplement.
Il y a aussi le mémorial du monde, une sorte de dictionnaire biographique des morts, l'obituaire, comme on disait au Moyen-Âge, avec chez les uns et chez les autres, chez les conservateurs des archives de Paris, chez les journalistes du Monde, la même difficulté qui venait d'être exprimée ici à l'instant. C'est pas facile, il faut se mettre une barrière. Et vous-même, vous nous raconterez comment vous avez pris le micro. Vous dites, c'est malaisé.
C'est malaisé parce que les gens ne parlent pas ou très peu au détour d'une conversation. Ils veulent bien donner quelques mots. Ils supportent pas les journalistes aujourd'hui. Pour eux, c'est une agression. Alors que, en fait, quand on les met dans un projet comme le projet qui est monté par le CNRS et Christian Delage, dans un projet à vocation scientifique, on travaille sur les années qui viennent, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est le moment de parler. que c'est l'occasion de parler, on le fait de manière assez solennelle, avec une grosse caméra, un très bon son, etc. Et ils disent des choses extraordinaires.
Alors, le laboratoire du CNRS, dont Christian Delage est le directeur maintenant, a une longue histoire en la matière. L'histoire orale, oui, enfin, l'histoire orale était un peu en France dans une préhistoire quand le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puis l'IHTP, l'Institut d'histoire du temps présent, s'en sont saisis. Ça demande des précautions, une réflexion et ensuite un réagencement pour servir de matériaux à l'histoire.
Voilà, c'est très important et il y a une expérience, celle du 11 septembre, aussi celle de Spielberg qui a fait 70 000 témoignages sur la Shoah et toute cette expérience, l'équipe de Christian Delage l'a accumulée, a participé aussi aux histoires du génocide du Cambodge, aussi l'histoire à travers des témoignages judiciaires. Et cela nous permet de construire un protocole scientifique autour de ces témoignages, parce qu'on ne peut pas se lancer comme un journaliste du habituel.
Protocole suppose lieu d'expérimentation. Alors on va en choisir un, essayer de raconter comment les débuts se font dans un groupe d'immeubles dans le quartier du Bataclan. Et on va commencer, si vous le voulez bien, c'est un enregistrement que vous avez assuré vous-même, par le témoignage de Marc, qui n'était pas chez lui le 13 novembre au soir, qui n'est rentré avec précaution que le lendemain.
Pour tout vous avouer, j'ai eu du mal à réaliser vraiment ce qui s'était passé avant de revenir sur les lieux. Parce que c'est tellement chez moi, et mes rues, mes habitudes et ma vie, j'ai senti quelque chose de vraiment différent quand je suis revenu sur les lieux le dimanche. J'ai ressenti que mon quartier, qui était plutôt paisible, agréable et tranquille, surtout ce dimanche-là, avait été envahi, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, par des centaines de personnes qui étaient autour. Donc j'avais du mal à me balader dans les rues et surtout j'ai eu du mal à accéder à chez moi parce que j'étais dans la zone protégée sur 200 mètres à la ronde. Donc il fallait passer par une zone particulière, un point d'entrée particulier, montrer sa pièce d'identité avec son adresse. Enfin, c'est assez particulier. Bon, passons. Et déjà, on a mis peut-être un quart d'heure, 20 minutes, alors que c'est un chemin qu'on fait en une minute pour y arriver. Et qu'on se retrouve dans cette zone protégée, vide, alors qu'on est à l'intersection de deux grands boulevards, Richard Lenoir et Voltaire, remplis de voitures habituellement, de gens, de bruit. On se retrouve au milieu de ça et j'ai vraiment eu la sensation d'être un survivant de la fin du monde. Quoi. Ce calme dans Paris et ce vide, malgré les quelques policiers qui étaient là et qui nous escortaient même, il y avait cette sensation. Quoi. Alors, je suis rentré chez moi ce dimanche après-midi, je suis vite ressorti parce que j'avais pas envie de rester, de m'imprégner de la chose. J'ai croisé mon voisin du dessus, pour lequel j'avais entendu qu'il était en week-end, donc j'étais content pour lui parce qu'il a deux enfants en bas âge. Et je le vois, je dis « Ah, heureusement, vous étiez en week-end. » Et il me dit « Non, non, j'étais là. » Et effectivement, je voyais sur sa tête un vrai traumatisme. Quoi. Il était blanc, des yeux vides, comme un zombie. Quoi. Et j'ose à peine imaginer ce que lui a vécu et ses petits-enfants qui ont moins de 3 ans.
Qui étaient là aussi.
On se sent un peu à l'abri parce qu'on est dans les étages élevés, on est au 5e, 6e, mais ne serait-ce que les bruits, entendre la foule, l'électricité, l'énergie qui doit se dégager de ces événements si exceptionnellement affreux. Bah ça traumatise hein, sur un homme et sur les enfants, j'ose pas imaginer. Bon. Et j'ai croisé ma gardienne, qui m'a un peu raconté son histoire, où son mari, en sortant les poubelles, a failli prendre une balle. Quoi.
Pour votre opération Chaque témoin compte, Antoine Lefébure, menée avec l'IHTP, c'est important, l'unité de lieu comme moment pour l'expérimentation. Parce qu'il y a le voisin du dessus, il y a les gardiens portugais dans la loge. S'installent les gens le lendemain qui viennent parler.
Oui, c'est important parce qu'on se rend compte. On teste les questions. On teste les questions. C'est-à-dire que l'idée, on veut faire l'IHTP veut monter un vaste système où 10 000 personnes vont témoigner parce qu'on a calculé qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient directement impactées. Donc, pour traiter correctement, il nous faut un protocole scientifique et on expérimente sur un immeuble. Et là, on voit quelles sont les bonnes questions et les mauvaises, combien de temps ça dure. On avait calculé à peu près 20 minutes. En fait, les gens mettent une heure à raconter des choses et pendant une heure, c'est passionnant. Et on se rend compte aussi de la nécessité de collectiviser, c'est-à-dire que dans cet immeuble-là, tout le monde s'est retrouvé chez la concierge, parce qu'ils avaient besoin de partager, et que c'était une manière de se reconstruire ce côté collectif. Et je pense que l'IHTP voudra garder dans les témoignages ce côté collectif.
Alors, beaucoup des habitants des appartements se retrouvaient seuls. Ils vont pas nécessairement aller de suite à la loge, ils vont pouvoir se regrouper provisoirement à mesure que la soirée avance. Vous dites qu'il faut que les témoignages soient faits, il faut aussi qu'ils soient entendus dans la longueur. Voici celui de Fanny.
Comme on vit à côté du Bataclan, on a l'habitude d'entendre souvent des bruits, il y a beaucoup de concerts, des gens qui crient, des gens qui sortent rapidement, qui rentrent rapidement. Donc on a un peu l'habitude d'un certain brouhaha qui est habituel le vendredi, le samedi et même le dimanche après-midi. Et donc en vivant tout le temps avec ça, j'ai pas tout de suite réalisé, quand j'ai entendu les premiers bruits, je pensais que c'était des pétards, comme beaucoup de gens dans la salle d'ailleurs, et ces petits bruits de pétards, ils étaient très lointains d'abord. Et au bout de 10 minutes, j'ai compris que les bruits se rapprochaient, comme s'ils venaient donc du devant du Bataclan, donc du boulevard Voltaire, mais de plus en plus j'avais l'impression que quelqu'un était sous ma fenêtre, parce que ma fenêtre, elle donne directement sur les sorties de secours du Bataclan. J'étais au troisième étage, je me suis levée, je me suis rapprochée de la fenêtre, et c'est là que j'ai compris, en fait, en voyant les gens. Les portes venaient juste de s'ouvrir, donc les portes du Bataclan, les sorties de secours, ça venait juste de s'ouvrir. Il y avait une telle masse de personnes qui sortaient les uns par-dessus les autres. C'était une espèce de panique. En voyant ça juste pendant une seconde, je me suis dit, ah, où il y a une bagarre très très intense et tout le monde a peur, ou alors il se passe autre chose. En même temps, c'était très lent, et en même temps, ça allait très très vite. Pour moi, c'était ça, sur le moment. J'étais à côté de ma fenêtre, je regardais en bas, je voyais tous ces gens sortir. C'était des bras, des jambes enchevêtrées, des pulls qui tombaient, des manteaux, on avait l'impression que les gens arrachaient les choses des uns les autres. Et je voyais qu'il y avait du sang. Et ce qui m'a fait me pousser de la fenêtre, en fin de compte, c'est le fait que j'ai vu les éclairs de la Kalachnikov. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un dans la rue en bas, qu'ils n'étaient pas tous rentrés par devant, mais qu'un troisième était peut-être passé par le passage pour attraper les gens de ce côté-là. C'était ça pour moi. J'étais à la fenêtre et les bruits devenaient tellement forts, ça faisait du ta-ta-ta-ta-ta. Et en même temps, on voyait les éclairs. Et je sentais ma vitre vibrer légèrement. Et c'est là que j'ai eu le réflexe de me coucher par terre, en fait.
Est-ce que les gens criaient ?
Beaucoup. Les gens criaient beaucoup. C'était comme une espèce de marée humaine qui essayait de sortir à travers des portes qui ne sont pas très grandes, en fait. Et comme il y en a une qui s'ouvre comme ça et l'autre s'ouvre juste avec un seul battant, elles ne se sont pas ouvertes au même moment. Et ça faisait une espèce de marée humaine. On avait l'impression que les gens montaient les uns sur les autres. Et avec ça, et avec les éclairs et le bruit de la Kalachnikov, j'ai eu le réflexe donc, de me coucher par terre. Et j'ai rampé jusqu'à mon canapé, j'ai pris le téléphone, j'ai rampé jusqu'à mon couloir, je me suis mis derrière le mur. Et là, je ne savais plus très bien quoi faire. Et donc, en réfléchissant très très rapidement, j'ai éteint la télévision, j'ai éteint la lumière dans mon salon, donc de la fenêtre qui donne sur la rue, parce que je voulais vraiment écouter, entendre ce qui se passait. Et comment dire ? J'étais accroupie dans le couloir et je me suis dit, s'ils tirent de cette manière en bas, s'il se passe quelque chose, ils vont casser la porte de l'immeuble et ils vont entrer. Et c'était mon obsession sur le moment. Et c'est là que j'ai entendu des pas dans mon escalier, dans notre immeuble. Et là, j'ai eu une grande peur. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que je vais faire ? Ma porte est blindée. Oui, mais je m'y connais pas en armes à feu. Et en fin de compte, j'ai trouvé le courage de me lever. Je peux être assez trouillarde quelquefois, mais là, étonnamment, j'ai vraiment trouvé le courage de me lever, et pas de ramper jusqu'à ma porte, mais de me lever et d'aller jusqu'à la porte pour regarder qui était dans le couloir. Il fallait que je sache, en fait. C'était ça. Et c'est là que j'ai vu ma voisine, le fils de la voisine du premier étage. En fait, ils avaient eu l'idée, parce que comme leurs deux fenêtres, comme c'est des deux pièces, donnaient directement sur les portes du Bataclan, les portes de sécurité du Bataclan, ils étaient au premier étage, ils ont pris peur, encore plus que moi. C'était trop près. Et donc la seule réaction qu'ils ont eue, en fait, ils ont commencé à monter dans les étages. Elle m'a dit qu'elle avait frappé à plusieurs portes que personne ne voulait ouvrir, qu'il y avait beaucoup de personnes aussi qui n'étaient pas là. Et quand j'ai vu le petit, je me suis dit, bon, Le réflexe, c'était ouvrir la porte. Et je le revois à la porte, ils ont vite couru à l'intérieur. On a tout fermé à clé. On s'est à nouveau accroupi dans mon couloir. On avait envie d'aller se cacher dans la chambre, mais en même temps, on n'entendait plus rien. Et le fait de rien entendre, ça nous angoissait encore plus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Nous présentons aujourd'hui une grande enquête orale qui commence, pilotée par l'Institut d'Histoire du Temps Présent du CNRS, à laquelle s'associent France Inter et France Culture. Chaque témoin compte. Nous sommes dans un immeuble proche du Bataclan, le 13 novembre dernier. Fanny et les voisins du premier ont fait l'obscurité. Ils se tiennent l'oreille en éveil.
On attendait, on écoutait. Ça continuait à tirer, ça continuait à tirer. On avait trouvé bizarre sur le moment, même dans la panique, qu'on n'entende pas les policiers arriver.
Qu'est-ce que vous entendiez ?
On entendait des tirs. Le temps que je rampe jusqu'à... Le temps qu'elle arrive, en fait, ma voisine, le temps que je rampe jusqu'à mon couloir, c'était des cris. Des tirs et des cris. Et c'était vraiment complètement dans la rue. C'était ça, ma sensation. J'avais pas envie de revenir jusqu'à la fenêtre pour vérifier. Donc j'allais vraiment à Louis. Et donc... C'était beaucoup de cris, beaucoup de cris et beaucoup d'armes à feu. On a commencé à entendre vraiment les voitures de police arriver, les sirènes. Un truc que je me rappelle, on entendait aussi les cris de celui qui tirait. Il y avait une espèce de... C'était comme une espèce de cri enragé. C'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, c'était pas quelqu'un qui s'enfuyait ni quelqu'un qui était blessé, parce que ces bruits-là étaient différents. Il y avait une femme qui criait « Pitié, pitié, s'il vous plaît ». Ne tirez pas. C'est flou, hein. C'est très très flou parce qu'il y a beaucoup de bruit au début. Donc quand ça a vraiment commencé, quand j'étais toute seule. Mais lui, vraiment, je l'ai entendu crier. On veut négocier, prenez le numéro. Ils avaient aussi des mots un peu. Pas très.
Quel mot il disait ?
Bordel, est-ce que quelqu'un m'écoute ? C'est là qu'on a compris que c'était du français parfait. Prenez le numéro, on veut négocier. Alors évidemment, personne ne répondait. Il n'y avait aucun bruit de nulle part. Aucun policier ne répondait, absolument rien. On n'entendait même pas les toki-woki, parce que d'habitude, plus tard, on les a entendus. Là, on n'entendait vraiment rien. C'était le calme total. Au bout d'une minute, il a recommencé. Putain de bordel de merde, est-ce que personne ne m'écoute ? Prenez mon téléphone. Il a commencé à réciter son téléphone. Ma voisine l'a retenu par cœur. Personne ne lui répondait. Ça continuait de la même manière. Il y a une autre personne qui a commencé à crier. Prenez ce numéro. On veut négocier, on a besoin d'un négociateur. Là, il n'y avait plus de gros mots, il y avait plus, c'était différent. C'est vrai qu'il y avait une différence de voix, c'était plus la même voix qu'au début. On sait maintenant que c'était l'un des otages qui avait été forcé de crier à travers la fenêtre parce qu'il les avait placés à un certain endroit pour pouvoir communiquer avec les policiers. Et donc, on entendait bien la différence de voix, mais en tout cas, la première et la seconde, c'était du français parfait. Donc ça, c'était clair. Alors après, ce qui devient un peu flou, c'est qu'on ne savait plus très bien... qui dans la rue en bas parlait. Pendant que cette personne criait qu'elle voulait négocier, j'entendais d'autres voix dans la rue et j'ai même entendu une personne dire « Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, moi aussi je suis ingénieur ou alors je suis pas ingénieur ?» Un truc comme ça. Alors, j'ai trouvé cette conversation complètement bizarre et ça venait d'en dessous, juste en dessous de ma fenêtre. Alors est-ce que c'était un policier qui parlait avec son collègue d'une manière un peu nonchalante, enfin dans une situation pareille, ça nous avait paru bizarre. Je sais qu'on s'était regardé toutes les deux avec ma voisine, on comprenait pas très bien. Et là, on commençait à entendre un petit peu les toki-woki, les portières de voitures claquer. On pouvait imaginer la scène, disons. Dans notre couloir, on pouvait imaginer à peu près ce que c'était la scène de l'extérieur parce que j'avais éteint la télé. J'avais pas envie d'être dans l'histoire de la télé, j'avais envie d'être là, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe. On voulait faire confiance à notre instinct, en fait, au cas où quelque chose arrive, qu'on puisse réagir. Après, j'ai eu mon cousin qui vit dans le 18e arrondissement au téléphone. Il m'a demandé si j'étais bien. J'ai dit oui, il m'a dit attention, je vais regarder à la télé ce qui se passe, je vais regarder dans les informations et je vais te dire à peu près ce que vous allez faire parce qu'apparemment il va y avoir un assaut, il y a beaucoup d'otages parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et donc grâce à lui, on a pu savoir qu'il y avait vraiment beaucoup d'otages au Bataclan, qu'il y avait une espèce d'assaut qui allait être donné mais qu'on ne savait pas très bien encore ce que ça allait être et qu'il me dirait le moment venu quoi faire. On est resté au téléphone et on attendait, ça avait l'air interminable, on attendait. Souvent, bon, on entendait les gens à nouveau crier, le numéro de téléphone, négociation, mais apparemment, personne ne voulait négocier avec eux.
Et d'autres choses, ils disaient d'autres choses que des
rien.
Négociations
Non, que ça. À un moment, il y a eu un... Alors maintenant, je ne sais plus très bien, ça c'est un peu flou, je ne sais plus très bien si c'est le premier qui a crié ça ou plus tard les otages, On leur faisait dire ça. Je veux négocier, on va tout buter, on va tous les tuer. Il y a un moment, il y a eu ça aussi. Après, c'était on va tout faire péter. Bon, toujours les mêmes expressions. Vous savez, ça faisait un peu déjà comme dans un film pour nous. C'était assez irréel.
C'est vous, Antoine Lefébure, qui avez recueilli ce témoignage, pionnier de cette expérience « Chaque témoin compte », à laquelle maintenant les doctorants de l'Institut d'Histoire du Temps Présent vont se livrer, enquêteurs à leur tour. Il arrive que des informations de caractère peut-être inédit arrivent avec ces témoignages qu'il faut recouper ensuite, réagencer.
Oui, c'est pas le sujet parce qu'on n'est pas dans le journalisme, mais il y a des informations qui sont tout à fait complémentaires, voire contradictoires avec ce qui sort dans la presse, et je pense que ça va continuer. Je crois qu'on comprendra exactement ce qui s'est passé dans des mois et des mois, grâce aux témoignages des témoins, mais aussi des policiers, des secouristes, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un besoin pour les survivants, mais même pour tout le monde, de comprendre ce qui s'est passé très précisément. Des gens qui étaient coincés dans un couloir, qui discutent avec des gens qui étaient dans la salle, etc. Et tout le monde, pour se reconstituer, tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé, et veut aussi, ça c'est une autre histoire, beaucoup plus géopolitique, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ils ont été attaqués? Ils ont l'impression qu'ils ont été attaqués personnellement et il faut qu'ils comprennent que c'est une histoire beaucoup plus collective.
Et l'histoire d'un événement, parce que si événement il y a, le mot est employé par la presse de manière indue souvent, là, c'en est un très certainement. Juste un dernier témoignage, le lendemain, toujours dans le même groupe d'immeubles proche du Bataclan, assiégé j'imagine par la presse.
D'ailleurs, ils ont très mal réagi, c'est-à-dire que les témoins, et c'est toujours le cas, ne veulent pas parler avec la presse parce que souvent des journalistes ont été sonnés aux portes, etc. Et à tel point d'ailleurs que les témoins appellent la police dans ces cas-là. Et la police se fait un plaisir de virer les journalistes.
Mais il arrive que la police sonne aussi aux portes, ainsi que va nous le raconter Marc, qu'on entendait au début de cette émission.
J'étais dimanche chez moi, on a fait une grosse sieste avec mon fils. Et à 18h45, pendant qu'on dormait, la porte sonne. Bon, j'attendais personne, j'ai pas ouvert. Je vois que ça insiste. Bon, j'y vais. Je dis oui, qui est-ce? J'entends oui, c'est le brigadier de la brigade d'intervention. J'aimerais vous poser quelques questions, c'est la police. Bon, un peu méfiant, normal. Montre-vous à quelque chose. Oui, je vous montre la carte. Il veut montrer la carte à l'œil de bœuf qui ne marche pas, il est bouché. J'ai dit, elle ne marche pas, passez-moi la carte sous la porte. Ah, vous exagérez, monsieur, et tout. Bon, j'entends un accent du sud. C'est un peu la caricature des policiers. Je suis rassuré. J'ouvre. Je vois une personne lambda, un petit barbu, un peu fort. Et il me raconte, voilà, on a besoin de poster des snipers demain dans des endroits stratégiques parce que le président de la République, François Hollande, vient, donc on doit le protéger. Moi, évidemment, je ne peux pas refuser ce genre de choses en lui faisant confiance. Donc, je dis, venez voir, voilà, le balcon est là, il rentre directement sur le balcon. Il vérifie, voilà, c'est parfait ici. Bon, il me prend mes coordonnées et je dis, vous me confirmez? Ouais, je vous confirme ça ce soir. OK. Il part. Bon, je trouve ça drôle. En même temps, j'ai mon père au téléphone, il me dit, vérifie quand même. Ça se trouve, c'est un coup monté. Je dis oui, c'est vrai, j'ai aucune compétence pour vérifier qu'une carte de police est vraie ou fausse, quoi. Ça pourrait être un truc fait chez Copitop, je m'en serais pas rendu compte. Et là, je commence à appeler les numéros spéciaux mis en place par la préfecture de police. Je dis voilà, vous êtes au courant, j'ai eu cette visite-là. Alors là, on n'est pas du tout au courant d'une visite de François Hollande, ok. Vous pouvez vérifier, ok, on va vérifier. Elle me dit, je vous conseille quand même d'appeler le commissariat du 11e pour voir. Ok, j'appelle le commissariat du 11e. Le commissaire me dit non, on n'est pas au courant de la visite de Hollande. On sait qu'il y a une reconstitution demain, mais on n'est pas au courant de la visite de Hollande. Ok. Il vérifie. Il me rappelle. Il dit écoutez, moi, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je vous envoie une équipe. Ok. Donc, il m'envoie une équipe. Je pensais qu'il allait m'envoyer une ou deux personnes. Au final, ils arrivent. Ils sont quatre, mais pas des agents de la circulation, hein, bien équipés, etc. Il dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a eu un appel et tout? Non, j'ai quelqu'un qui est venu, donc je raconte toute l'histoire. Bon. Et entre-temps, heureusement, donc ils sont au Kiwoki qui sectionnent et la confirmation du fait que le président venait le lendemain matin. Je dis bon, désolé de vous avoir dérangé, mais bon, je préfère rassurer parce qu'en même temps, je leur disais, si c'est un faux truc, il va y avoir je vais mourir, c'est une chose, mais il y aura un sniper sur les toits de Paris, c'est dangereux quand même. Donc, ils ont pris mon appel au sérieux, quand même.
Et le lendemain ?
Et le lendemain, donc, ils sont venus à 7h, enfin 6h57, ce qui est très tôt pour moi. Et donc, je vois arriver deux mecs de la BRI, mais en tenue, quoi, avec la cagoule, les flingues, un gros sac à dos avec les fusils et tout. Ils viennent, ils s'installent dans le salon. Je leur propose un café dans un premier temps, non. Et je les vois monter leurs armes et tout. Enfin, c'est une scène surréaliste de voir ça chez soi. Puis après, ils se sont postés sur le balcon pendant une heure et demie. J'ai un peu discuté avec eux et on se rend compte que c'est des hommes comme tout le monde, même s'ils sont hyper impressionnants. C'est un ancien sportif de haut niveau, ce qui est étonnant parce que le mec était venu la veille, il n'avait pas le profil et pourtant il en faisait partie. Et voilà, il nous a raconté qu'ils étaient sur les dents depuis évidemment le jour des attentats et qu'ils n'ont eu que le dimanche pour se reposer, être en famille. Je les entendais rigoler entre eux, se raconter des anecdotes, mais en même temps, être très vigilant à scruter tout dans leurs lunettes, etc. Donc voilà, donc j'ai pris quelques photos à leur insu, mais je pense pas qu'ils m'en auraient voulu. Et quand j'ai envoyé ça à mes amis, ils ont rigolé, quoi, c'est surréel. Enfin, moi, je me sentais plutôt rassuré. Je me dis, bon, avec des mecs comme ça, il peut pas m'arriver grand-chose. Mais en même temps, on se rend compte à quel point c'est devenu inquiétant, quoi.
Marc parle du lendemain, nous sommes maintenant le surlendemain, Antoine Lefebure, à un moment idéal pour recueillir les témoignages dans votre opération d'enquête orale entre la sidération et la fixation qui va plus tard venir, mais il faut faire très vite et mobiliser beaucoup de moyens.
Voilà, alors on lance des appels un peu partout, c'est vrai que France Inter et France Culture ont été les premiers à répondre, c'est aussi parmi les premiers qu'on a été voir. On a un très bon écho du côté du ministère de la Culture. On va voir des grandes entreprises de multimédia qui vont pouvoir nous aider en moyens, en argent, etc. Parce que nous, l'IHTP est parti sur un an et demi de travail. C'est un travail de long terme. Il y a des banques de données à constituer, des applications pour téléphonie mobile. Parce que, outre les 10 000 personnes témoins directs, je pense que des centaines de milliers de Français vont avoir envie de témoigner d'une manière ou d'une autre, d'inventer une chanson, de dire un poème, de donner un coup de gueule, et qu'il faudra leur donner un espace dans le numérique pour ça.
Donc, et après, il faudra indexer. L'Institut National de l'Audiovisuel sera peut-être intéressé.
Voilà, bien sûr, la BNF. On a une grosse tradition en France pour tout ça, et on aura des archives qui auront été constituées au moment où ça s'est passé, au lieu de, évidemment, ce qui est évidemment un plus extraordinaire, parce que pour le moment, on n'a fait qu'une quinzaine d'entretiens, mais ils sont tous extraordinaires. Les gens racontent des choses passionnantes.
Alors, Marc et Fanny ont donné une autorisation exceptionnelle pour que ces entretiens soient diffusés, mais ils ne sont pas destinés à la diffusion. Il faut que les témoins sachent qu'ils travaillent pour un avenir lointain et en même temps discret. On va donner le site de l'IHTP, IHTP CNRS.
Qui est aussi présent sur Facebook, d'ailleurs, l'IHTP.
Voilà. Et puis, sur le site de la marche de l'histoire, on pourra lire une présentation plus complète de cette opération dont vous êtes un des initiateurs, Antoine Lefebure, avec Christian Delage, et qui s'intitule « Chaque témoin compte ». L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique, pardonnez-moi, Ludovic Asselot. Mathieu Vidard, dans un instant.
Eh bien, c'est le club, Jean, nous sommes vendredi, beaucoup de sujets. Paul-Émile Victor, par exemple, des robots biologiques, ou encore le docteur Barthes.
Un peu après 14h.